franceinter.fr.
Bonjour. En pleine Coupe du Monde de rugby, alors que la compétition bat son plein, que la France va attaquer les choses sérieuses avec un match contre l'Irlande cet après-midi, et ensuite les quarts de finale et les matchs éliminatoires entre grandes nations de ce sport, nous allons parler ce matin rugby. Il y a maintenant tout juste 20 ans que ce sport, très populaire en France, est devenu professionnel. Cette évolution a beaucoup transformé les clubs, les joueurs de l'élite et le jeu lui-même. Comme tous les sports professionnels, c'est aussi devenu un spectacle dans lequel s'affrontent des athlètes aux carrures hors du commun, plus adeptes des séances de musculation que des troisièmes mi-temps arrosés. Les enjeux financiers sont de plus en plus importants et l'exigence physique de plus en plus grande s'est accompagnée de soupçons de dopage. Le rugby, sport de combat collectif, qui s'est toujours targué de véhiculer des valeurs particulières, y a-t-il perdu un peu de son âme? Comment les joueurs amateurs, qui constituent toujours l'immense majorité des 440 000 licenciés en France, perçoivent ces évolutions? Comment jugent-ils l'élite du rugby? Constitue-t-elle toujours un modèle pour eux? Pascal Dervieux et Éric Damaggio ont passé quelques jours auprès de l'Union sportive vézérienne, club amateur d'une petite ville du Périgord de 2000 habitants, le Lardin-Saint-Lazare. Voici leur reportage, le bonheur est toujours dans le pré.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Interception, le magazine de la rédaction.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Fais jouer, fais jouer, fais jouer. Ouais.
Vas-y.
Nettoyage là, il manque deux personnes. Ouais. Un neuf.
Ouais.
Top.
Là, les bleus c'est bon, la défense nickel.
Là, 4 rouges. Les 4. Vous êtes debout derrière le ballon, arrêté. Il vous fait la passe, personne ne le prend, tout le monde se regarde et en plus vous êtes à l'arrêt. Donc le rugby c'est comment?
Bah, avancer.
Ah ben voilà,
ouais,
tu vois, mot simple, avancer. Allez, on repart sur une mêlée pour les bleus.
Okay.
Les bleus, allez, les bleus.
Pour nous, allez,
allez, le 9.
Allez.
Enzo, t'en récupères.
Flexion.
Droit et devoir du joueur. À une formation de qualité, au plaisir de jeu, à la prise d'initiative, au respect éducateur, dirigeant et adversaire, d'être assidu et ponctuel, d'accepter en toutes circonstances les décisions des responsables, d'être respectueux des règles de jeu, de son encadrement et de ses partenaires, de l'arbitre et de son équipement. D'accepter et à aider ceux qui auraient des difficultés. D'être un compagnon agréable dans la vie de groupe.
Enzo, tu viens de nous lire les devoirs et les droits du jeune joueur de rugby. C'est très compliqué de jouer au rugby aujourd'hui, non?
Non, pas trop.
Pas trop? C'est pas compliqué de respecter tout ça?
Non, ça.
Là, les gars! Dan! Merci!
Thierry Joffre, vous êtes le responsable de l'école de rugby de l'US Vézérienne. Vous avez donc en charge l'éducation de tous ces petits que l'on voit sur le terrain ce mercredi après-midi. La charte que vient de nous lire Enzo, c'est ce qu'on appelle l'esprit du rugby. Et c'est cet esprit que vous essayez d'inculquer à tous ces jeunes?
Oui, tout à fait. C'est une charte qui a été établie il y a 2 ans. Donc on a essayé de mettre en place ce petit livret qui leur fait comprendre que le rugby, c'est aussi des valeurs qui sont primordiales pour notre sport. C'est les mêmes valeurs qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. C'est ce qui fait que le rugby est ainsi. Les enfants de nos jours ont peut-être plus les mêmes repères que nous on avait quand on était enfant, du fait de la vie qui est de plus en plus compliquée pour certains enfants. Donc justement, ces enfants, on essaye justement de les ramener à ce sport, leur faire comprendre que c'est important de se sacrifier dans ce sport-là. Parce que le rugby, c'est un sacrifice. C'est pas un sport individuel.
On est en pleine Coupe du Monde en ce moment. Hein. On est aussi l'année où l'on célèbre le 20e anniversaire du professionnalisme dans le rugby. Qu'est-ce que le professionnalisme a changé pour vous, éducateurs, dans votre façon d'éduquer?
Pas grand-chose. Notre regard est le même. Mais non, c'est pour les enfants, c'est devenu une référence. Alors qu'avant, c'était pas une référence. Mais non, on peut avoir un travail avec le rugby. Chose qu'avant, c'était plus une passion, plus un amusement. Mais non, c'est un travail.
Dans certains sports, le professionnalisme génère des effets très négatifs sur l'état d'esprit des enfants. Quand on voit des gamins qui, sur la pelouse ou sur un parquet, copie ce que les comportements professionnels ont de plus négatif. Qu'est-ce qui va protéger le rugby, tout ça?
Si je le savais. Si je le savais, je vous le dirais.
Des gens comme vous?
Peut-être, peut-être pas, j'en ai aucune idée. Peut-être que, justement, eux, ceux qui sont sur le terrain, ces enfants-là, qui seront peut-être de futurs joueurs, j'espère, de futurs joueurs, de futurs éducateurs. Dans notre sport, on essaie justement d'éviter ce genre de comportement. On ne laisse pas ce genre de comportement passer.
Oh, il est chaud, le capteur.
Est-ce que je veux entendre?
Sur le port de la Touche, en ce mercredi après-midi d'entraînement, on rencontre quelques parents et même un grand-père. Qu'est-ce que vous attendez de ce sport pour vos enfants?
Le mot le plus important, c'est le respect. Les restants ou les gamins, on leur apprend des règles. Il y a les règles du jeu, mais il y a les règles de comportement. Et je crois qu'au rugby, ces valeurs-là, elles sont mises en avant et c'est la priorité. Et les gamins, après, en ressortent grandis. Et la fierté des parents ou des grands-parents, mais c'est quelque chose, quoi. C'est, on dit les valeurs, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Le mot, la règle, mais la règle du jeu, mais la règle aussi, après, les règles tout autour. Et même à rentrer à la maison, même après à l'école, c'est tout ce que ça entraîne. Le rugby, c'est ça, en fait.
Alors moi, je peux répondre assez directement. Mon fils vient du foot. Voilà, 6 ans qu'il faisait du foot et il a décidé l'an dernier d'arrêter. Malgré qu'il ait tous ses amis au foot, il a désiré venir au rugby. C'est pas facile parce qu'il est avec des enfants qui en font depuis 5 ans, 6 ans sur le terrain. Je le sens un peu à part, mais je crois qu'il ressort content de l'entraînement et on en revient à ça. Je pense que l'essentiel se trouve dans les valeurs, parce que nous, les valeurs inculquées à la maison n'étaient pas celles du foot. Il adorait le sport en lui-même, autant les valeurs qui sont inculquées, il ne s'y retrouvait pas. Voilà.
De quelles valeurs vous voulez parler, par exemple?
Le respect, en premier. Et moi, pour avoir fait partie d'un club de foot, on essaie, mais du coup, sur les terrains, on n'apprend pas les bonnes choses aux enfants. Voilà, dès tout petit, on a beau essayer, c'est pas aussi tenu, je pense, que dans le rugby. Où là, on commet une faute de respect, on exclut quoi. Il y a des règles et elles doivent être respectées. Au foot, elles ne le sont plus assez. Et c'est là où parents et enfants, je pense, ne se retrouvent plus. Aujourd'hui, au rugby, si on regarde la Coupe du Monde, etc., on retrouve ces valeurs-là, celles que les mamans en foot, plus du tout. Aussi bien au niveau des joueurs que des entraîneurs, c'est des clashs à chaque fois et on revoit ces mêmes joueurs sur les terrains, gagnant beaucoup d'argent et ne sachant pas représenter tout simplement les valeurs du respect.
En avant. Tu es en avant. En avant, Pascal. Mais non. Allez, mets-les ici.
Nous sommes vendredi matin et le vendredi matin au Lardin, c'est un jour particulier parce que c'est le jour du marché. C'est là que se réunit une grande partie de la population et nous allons en profiter pour aller sur un autre lieu central du village. C'est le café où travaille le capitaine de l'équipe du Lardin. Aurélien Lagarde, bonjour.
Comment ça va?
Capitaine de l'USV.
Oui, tout à fait. Tu
vois, pour vous, c'est très cher, je n'avais pas l'impression comme ça.
Tu vas être à ta poubelle là maintenant?
Eh oui.
Oh là là.
Reste ici.
Ah, mais oui.
Bon, Aurélien, vous êtes capitaine, on vous trouve sur votre lieu de travail parce que, comme tous les joueurs de l'USV, vous n'êtes pas un professionnel.
Ouais.
Et le club ne vous rémunère aucunement.
Non, du tout. Du tout, du tout, pas de rémunération. Donc voilà, le rugby, c'est une passion. C'est une passion qui nous anime là, au sein du Lardin. Et puis moi, je suis au contact justement toute la semaine, que ce soit des supporters, des dirigeants, des coéquipiers, qu'on peut rencontrer toute la semaine. Vous avez deux joueurs qui sont au comptoir, voilà. Ça discute, ça parle rugby, sport.
C'est quasiment une annexe du clubhouse ici.
Ah oui, tout à fait, ouais, c'est une annexe au niveau de la semaine. Parce que dès le lundi matin, on a les premiers commentaires, on a les premiers comptes rendus sur les matchs. Alors ouais, c'est vrai que je suis en première ligne un peu, que ça soit pour les bons côtés, mais aussi comme les mauvais. Hein, parce que quand on a perdu, quand on n'a pas été bon, eh bien, voilà, on est un peu ici là, le paratonnerre du club. Hein, c'est ici... que les gens viennent débattre, mais c'est sympa, c'est ce qui fait son charme aussi, et c'est ce qui rend un peu ce club convivial, quoi. C'est le point de rencontre de tout le monde.
Et professionnellement, vous arrivez à aménager votre temps de travail par rapport aux entraînements, par exemple ?
Ouais, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai la chance d'avoir un associé qui me permet aussi de me libérer, notamment le dimanche quand on joue à l'extérieur, parce que on joue beaucoup dans la journée, donc c'est 2h30, 3h de voiture, sachant que le match est à 3h. Ici, nous, on ferme à 13h le dimanche, donc... Il me permet de compenser le fait que je parte jouer vers midi. Je prends ma voiture, souvent avec un dirigeant, et on arrive là-bas. Ouais, c'est vrai que c'est une drôle de façon de préparer un match, parce que c'est souvent que j'arrive, que les copains sont déjà changés ou attaquent l'échauffement. Et voilà, moi j'ai fait la route sans manger. Mais c'est important moi pour mon équilibre. Et puis voilà, j'aime tellement ça que je pourrais pas m'en passer, même si je fais beaucoup de sacrifices.
Alors, allez, je suis prêt. Combien il faut ?
Pour deux.
Oui.
Il était à...
aux
Arrasquiers, à Frontillon.
Nous sommes sur le marché où nous avons rencontré un vieux supporter, un vieil amoureux du club.
Je m'appelle Boris Claude et je suis rentré au club comme joueur dirigeant, ça fait 60 ans.
Alors l'inconditionnel du club du Lardin, du club amateur, qu'est-ce qu'il pense de l'évolution du rugby aujourd'hui ?
C'est moyen, c'est bien par certaines choses, le physique est nettement mieux, la vitesse est nettement mieux, mais la qualité du jeu, pour le spectateur, n'est pas meilleure.
Là, on parle du rugby professionnel.
Du rugby professionnel, oui. Mais le problème, là aussi, c'est que les petits clubs se mettent à vouloir jouer comme ça aussi.
Y compris le vôtre ?
Ça dépend des fois. Ouais. Oui et non. Oui. C'est pas toujours, mais c'est un peu comme ça.
Quels sont les aspects les plus négatifs du rugby professionnel qui commencent à déteindre sur ces petits clubs, justement ?
Il y a l'argent, déjà. Et chez nous, c'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas d'argent distribué, disons. Mais en règle générale, des clubs à notre niveau, beaucoup de joueurs sont payés. Ça, dans les petits clubs, ça crée pas des jalousies, mais des tensions. Parce que dans les petits clubs, tout le monde n'est pas quand même payé. Alors que certains sont payés.
Et à partir du moment où on est payé, vous pensez que ça a une influence sur la façon dont on joue ? Sur les enjeux ?
L'engagement. L'engagement, entre la différence entre ceux qui sont payés et ceux qui ne le sont pas.
Nous allons tous chanter, s'il vous plaît. Avant de mi trois quarts et roublard, ainsi que les doués dirigeants de l'USB. Et puisqu'en France c'est notoire, tout finit par des chansons. Nous allons dire leur gloire en chantant ce refrain sans façon. Ah mes amis, chantons en chœur. USB.
Pour évoquer cette longue histoire de l'Union sportive vézérienne, nous avons rendez-vous avec Guy Rougerie. Guy Rougerie, c'est un petit peu la mémoire du club et la mémoire du lieu aussi, puisqu'il a présidé en 2008 un comité pour le centenaire du club, puisque le club, l'US vézérienne, est né en 1908. Guy Rougerie, vous avez présidé un important travail de mémoire dans le club, puisque l'USV célébrait en 2008 le 100e anniversaire de sa naissance. En 1908, le rugby était tout neuf en France.
Oui, effectivement.
on va considérer que le développement du rugby s'est surtout manifesté après la première guerre. Entre les deux guerres, là, on a eu prolifération de création de clubs en France. Mais effectivement, l'US Vézérienne fait partie des premiers clubs à s'être affilié à une fédération et à pratiquer donc dans une compétition officielle et structurée. Je crois qu'effectivement, la disparition de ce club nuirait vraisemblablement à l'harmonie, la bonne entente de la population.
Hop, allez, Pab, rapide. Pab, recompense, Adrien. Voilà, rapide. Pab, deuxième vague. Pab. Pab, replace-toi. Camille, tu joues sur le porteur de vague.
Soutiens sur Camille. Ouais. Avec Matt, libération rapide, dans le sens. Qui s'annonce? Tu tiens sur Peillot.
Ah, ça ressemble à quelque chose. C'est bon, on va finir sur ça. Soufflez.
Jean-Michel Courreau, qu'est-ce que vous allez faire là?
Là,
ouais.
Là, je vais annoncer la composition de l'équipe, du groupe, des remplaçants.
C'est un moment important parce que c'est le premier match de championnat dimanche.
Non seulement c'est important parce que c'est le premier match de la saison, il est à domicile et c'est nos amis de Montignac qui viennent nous rendre visite.
Donc vous allez faire des heureux, vous allez faire quelques malheureux aussi?
Ben, y a toujours, c'est toujours pareil, il y a 15 très, joueurs très contents, 7 un peu moins, et après il y en a toujours 2 ou 3 qui sont déçus. Mais bon, il y a l'équipe 2 qui évolue en levée de rideau, ils ont aussi les moyens de montrer leur qualité en jouant en équipe 2. Bon les garçons, pour dimanche, voilà le groupe pour l'équipe 1. Momo, Lino, Bembin, Flo, Poëlan, Roube, Damien, Sanvin, Flo Guioni, Matt, François, Polo, Aurel, Ivan, Petit Payot, Max, Adrien et Ad, Greg, Rémi, Peter et Axel. Voilà. Donc le rendez-vous.
11h30,
on essaye d'être ponctuel. Comme je l'ai dit, on ne va pas se mettre une pression supplémentaire parce que c'est Montignac, mais c'est avant tout le premier match à la maison.
Pas plus, simplement vous souhaiter forcément une belle saison puisque c'est le premier match. Qu'on soit fiers de vous, on l'est déjà. Les couleurs, vous les avez ancrées tous depuis longtemps. Et puis nous, les présidents, les entraîneurs, les coachs, on l'a ancré aussi. Donc faites-nous plaisir pour cette saison et dès dimanche, qu'on puisse boire une bière tous ensemble avec le sourire. Bon match, les gars.
Petite description de nos joueurs. Donc, nous avons Polo, là, qui est agriculteur, qui élève des veaux. Pierre, qui est professeur de gymnastique. Nous avons Alexis, qui est responsable commercial dans la vente de véhicules utilitaires. Vincent, qui est responsable chez Hachette, qui vend des livres. Nous avons Pierre qui est boucher, le petit Pierre ici qui est pompier. Nous avons Lino là-bas qui est chef d'entreprise dans le bâtiment. Benoît qui est agriculteur également, produit laitier. L'entraîneur qui est donc dans la gendarmerie, enfin non, dans la police, pardon, je confonde. Adrien qui est responsable d'une association laïque. Raphaël qui est dans le chemin de fer. Voilà, les diversités des professions de nos joueurs, quelques-uns.
17-6 avant la pause. Avec le retour du joueur de l'USAP, Paul Caillon. Et Robé qui remplit tout ceci.
Benoît, troisième ligne de l'équipe de l'USV. Vous jouez d'habitude dans la mêlée. Et en ce moment, vous ne jouez plus. Expliquez-nous un petit peu pourquoi.
Tout simplement parce que à force de blessures à répétition, j'ai dit stop, parce que par rapport à mon boulot, quoi, les lundis, il fallait aller traire et à 6h et les matins, ça pique, quoi. Alors, en 2 ans, je me suis cassé le poignet, donc pendant 4 mois, j'ai pas pu travailler. Après, je m'étais déplacé 3 côtes, donc c'est pareil. Pendant une semaine, avant de me les faire remettre, ben, je pouvais plus faire grand-chose, mais bon, fallait quand même être là. Après, je m'étais fait une entorse aux chevilles, et puis la dernière blessure, c'est le ménisque qui a cassé, donc normalement, faut que je me fasse opérer. Donc c'est 3 semaines à 1 mois d'immobilisation, donc avec mon boulot, c'est impossible, je peux pas m'arrêter, laisser mes collègues tout seuls une fois de plus encore pendant 1 mois, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter de jouer au rugby.
Votre boulot, c'est l'élevage de vaches à lait.
L'élevage de bovins lait, bovins viande, on fait du veau de boucherie aussi, et après des céréales.
Alors c'est une exploitation que vous avez en commun sous la forme d'une GAEC, et vos associés, en tout cas votre associé principal, est aussi un joueur de rugby.
Oui, on est 4 associés en fait, et on est sur les 4, on est 2 à jouer au rugby au Lardin, et lui joue par contre, ouais.
Alors c'était un petit peu le modèle autrefois, hein. Le joueur de rugby était souvent associé au monde agricole, c'est toujours vrai en partie ?
Dans notre club à nous, on est pas mal oui, d'agriculteurs à faire les deux, quoi. Et c'est ce qui fait un peu notre force, quoi, c'est d'être des gens du pays, comme on dit.
Et puis quand on joue dans la mêlée, ça aide éventuellement ?
Ah oui, ça aide, oui. Les coups font pas trop mal normalement, parce qu'on a l'habitude.
Flexion. Bien comme il faut, les gars. Placement. Stop.
Ah.
Hey,
là.
Voilà. Alors, il sort bien, quoi, parce que là, je vois.
Alors, t'enlèves pas, Malo.
Alors,
placement.
La troisième.
Bouge pas, elle.
Toi, ta jambe de
peut-être. Regarde, oh.
Ta jambe
est de peut-être. Oh.
Là.
Si les 20 ans de professionnalisme ont constitué pour le rugby de l'élite une véritable révolution, les conséquences se font aussi sentir dans les équipes amateurs. Ces dernières années, 3 jeunes joueurs de clubs périgourdins et corréziens sont morts des suites de cancers suspects. Des cancers que certains médecins attribuent sans hésitation à la prise de produits dopants. Les petits clubs, comme l'USV, n'ont pas les moyens d'avoir un encadrement médical permanent. Et que valent les mises en garde des dirigeants, alors qu'Internet permet à chacun de se procurer les produits présentés comme miraculeux sur le plan musculaire. Serge Coustillas est médecin, spécialiste du sport en Dordogne.
Ah, en chance de tomber du ciel maintenant, là. Alors, dans la douche.
Alors, si on voit toutes les publications qui ont été faites sur l'évolution du physique des joueurs de rugby, on s'aperçoit qu'à tous les postes, on a eu et à la fois la prise de taille et la prise de poids. En une centaine d'années, on a des prises de 25 kilos à certains postes.
Et là, pour illustrer ce que vous venez de dire, vous nous avez apporté la liste des membres de l'équipe de France avec leur mensuration. Je vois 1m92, 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 1m86, 1m80. Et puis, c'est quasiment tous... au-dessus ou flirtant avec les 100 kilos, quoi.
Tout à fait. Alors, moi, j'ai calculé, on a 19 joueurs qui sont supérieurs ou égaux à 100 kilos. On s'aperçoit quand même qu'on a un joueur qui fait 152 kilos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on aurait en consultation, qu'on dirait qu'il est dans un état morbide. C'est-à-dire que son poids risque de lui causer des problèmes de santé, diminuer son espérance de vie. Et à la limite, c'est le seul sport dans lequel on voit quelqu'un qui est dans un état morbide, qui joue au niveau professionnel, mais en international, en compétition. C'est quand même assez surprenant.
On est devant des adolescents là, qui sont en train de s'entraîner devant nous. Certains seront tentés peut-être par le professionnalisme. Il y a des grands clubs autour de nous. Il y en a un qui est tout près d'ici, c'est le CA Brive. À quels efforts faut-il consentir pour arriver à un niveau, notamment physique, tel que celui que vous venez de décrire ?
Alors, moi j'ai travaillé avec le centre de formation de Périgueux, avec Dorian Quesnil, où justement on s'est intéressé aux enfants qui avaient envie de devenir professionnels. Donc on a essayé de les encadrer sur plusieurs points. D'abord pour leur expliquer que le béaba de l'entraînement passait par l'assiette et le sommeil. De casser un petit peu cet état d'esprit qui était « je peux avec des petites boulettes, avec de la poudre, avec des médicaments, je peux devenir aussi fort qu'eux ». Non, ça a été le plus dur pour les enfants, leur faire comprendre que déjà ça passe par l'assiette et surtout par le temps de sommeil et de récupération.
Mais quand on entend des adolescents, comme j'en ai entendu un pas loin d'ici, dire « voilà, moi j'ai un copain qui est parti dans un grand club du top 14, il a été recruté à 16 ans, je l'ai revu 2 ans après, je ne le reconnaissais plus », est-ce que le type de préparation dont vous venez de parler suffit à expliquer cette transformation ?
Alors, ces gamins qui passent dans des centres sans formation comme le top 14, ils vont se retrouver avec des fois deux séances d'entraînement par jour, la musculation, avec une couverture médicale, avec des conseils diététiques. Bref, ils vont avoir un entourage qui va être complètement différent et on peut très bien imaginer qu'avec des conseils, on puisse avoir une meilleure force musculaire, de meilleures détentes, etc., sans médicaments. Mais aussi, on peut se poser la question si certains enfants ne pourraient pas être tentés, et de même, pas obligatoirement poussés par le club, pour que les choses aillent plus vite. Et on s'aperçoit que pour des compétitions de collège, UNSS, des études ont été faites, je crois que c'est dans les Midi-Pyrénées, où on avait 15% de gamins qui étaient, entre guillemets, possiblement dopés. Donc ça fait poser des questions et ça doit demander beaucoup de redoublements. En sachant qu'au niveau au Sénat, à commission de dopage au niveau du Sénat, il y a un exposé qui a été fait par une des représentantes de l'Association française de lutte contre le dopage, qui a pris que 8 fédérations qui ont eu 400 contrôles antidopage chacune dans l'année 2012, et la fédération de rugby est la première dans le listing. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'était amusé à faire des études où il avait pensé qu'en 2040, les arrières allaient faire 130 kilos. D'après, si on l'extrapolait comme ça, les prises de poids, etc.
Les arrières qui rugby sont les plus petits gabarits. Hein.
Normalement, oui, normalement. Et on se retrouve effectivement avec des forts gabarits. Avec, il faut absolument qu'ils aient une carrosserie costaud. C'est pour ça qu'aussi il y a besoin de masse musculaire parce qu'ils ramassent des chocs hyper importants. Mais en tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le changement des règles d'arbitrage, notamment des entrées en mêlée, ont changé terriblement le nombre de traumatismes cervicales et le nombre effectivement de gens qui sont devenus invalides à cause d'eux.
Le rugby pratiqué avec les gabarits d'aujourd'hui, selon les règles d'il y a 20 ou 30 ans, serait dévastateur.
Ah ouais, ce serait terrible ça. Ce serait terrible du point du traumatisme.
Dans le domaine du jeu aussi, le rugby professionnel déteint sur l'amateur. Alors, certains vont chercher la fraîcheur ailleurs, chez les filles. La Coupe du Monde féminine l'an passé a permis de découvrir un vrai spectacle, du jeu vif, des attaques enlevées, de beaux essais. À l'US Vézérienne, les filles sont nombreuses, enthousiastes et enthousiasmantes.
Sarah, Marie, Gwendoline,
Tiffany.
Pourquoi vous avez choisi le rugby ?
Parce que moi, c'est dans la famille. On fait tous du rugby.
Oui, la famille aussi, pour se défouler. C'est le seul sport qui me permet de m'évader.
Mais pareil, je revends les idées. Depuis l'âge de 5 ans, j'en fais et je suis la famille. Voilà.
Bah moi, parce que mon grand frère, il s'entraînait ici et je suis venue, j'ai bien aimé, ça me défoulait, ça coordonnait aux horaires, donc voilà.
Alors on dit qu'il y a des vieux grincheux qui sont pas très contents de voir les femmes arriver dans le rugby. Vous l'avez perçu ou pas ?
Oui. Enfin, oui, on l'a. Enfin, moi, je l'ai perçu personnellement. Ils croient savoir. Les règles, mais c'est le rugby, ça a changé, quoi. Enfin, c'est plus le vieux rugby comme on a pu connaître. Et puis les femmes aussi, maintenant, ça se développe. C'est bien pour nous, quoi.
C'est un jeu qui est beaucoup plus ouvert. Et nous, les filles, on joue vraiment un jeu plus libéré, plus ouvert. On n'est pas, voilà, on cherche pas. C'est un jeu de combat, c'est un sport de combat, certes, mais on sait quand même éviter tout ça.
Quand vous rencontrez des copines, vous leur dites je fais du rugby. Il y a plus l'effet de surprise.
Ah si, un peu. Enfin, ouais, si, quand même. Ouais, c'est un peu surprise parce qu'ils croient que c'est pour les brutes, qu'il n'y a pas de technique, que le rugby, c'est juste du tamponnage et tout, mais non.
Moi, j'ai essayé plusieurs sports. Enfin, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation. Mais voilà, c'est le rugby qui est resté parce que c'est un sport collectif. Et je pense que le rugby montre des valeurs qui sont un peu plus humaines que des sports individuels. Et c'est surtout ça que je pense qu'aujourd'hui, les joueuses, nous, les filles, on recherche. Et c'est ce qu'on a su développer ici au Lardin. Et c'est pour ça qu'on est tellement soudées, qu'on est toutes ensemble et qu'on passe vraiment un bon moment, quoi, vraiment.
Ouais, c'est vraiment de l'équipe. Même moi, j'ai fait du tennis pendant longtemps. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout... On sait que même à l'extérieur du terrain, que si on a un problème, moi, je peux appeler quelqu'un, je sais qu'il y aura toujours cette personne qui sera là. C'est vraiment... Enfin, c'est pas un sport individuel, quoi. On est toujours là, même en dehors du terrain.
Clément Lachaud qui introduit 5 mètres de la but de la zone avec un paquet Bergeracois qui progresse. Assez bien joué ça de la part de Bergeracois. La mêlée fermée s'est transformée en mêlée ouverte. Est-ce qu'on va avoir une balle portée? Et le premier essai sur balle portée de Bergeracois.
Depuis plusieurs décennies, le journaliste Christian Lacombe fait vivre les matchs de rugby dans la région pour les auditeurs de France Bleu Périgord et pour les lecteurs du journal Sud-Ouest.
Christian Lacombe, on est ici au bord de la Vézère, cette rivière qui a donné son nom à l'US Vézérienne. Est-ce que vous continuez de regarder le rugby aujourd'hui avec la même passion, le même plaisir? Et quel rugby regardez-vous avec plus de plaisir?
Alors non justement. Je ne regarde plus le rugby avec le plaisir avec lequel je regarde. Vous savez, moi j'étais dans une petite école du sud de la Dordogne, l'école primaire de Biron, et c'était l'institut du village, qui était un des rares à avoir la télévision d'ailleurs, et qui m'amenait voir les matchs le samedi après-midi alors qu'on avait encore école. Et on aimait ce rugby, on aimait voir ce rugby. Maintenant, quand on va voir on regarde le rugby à la télé. Moi, il m'arrive de louper maintenant, moi, un passionné de rugby, il m'arrive de louper des matchs d'installation à la télé. Si c'est un samedi après-midi où il fait un soleil magnifique, hein, où je peux aller pédaler, où je peux aller courir, où je peux aller à la pêche, hein, ben, le soir, je regarderai le résumé, ça me suffira. Alors que je me rappelle une époque, je n'aurais jamais, même je crois qu'il y aurait eu un enterrement dans la famille, il aurait fallu reculer l'enterrement, parce que je n'aurais pas loupé un match des Nations. Et maintenant, je regarde moins parce que le rugby, il a évolué, tout évolue, hein, mais il a évolué, pour moi, pas tout à fait dans le bon sens. C'est-à-dire qu'autrefois, on voyait beaucoup de jeux, et maintenant, on voit beaucoup de pick and go. C'est-à-dire de regroupement, c'est-à-dire des types qui sont hyper musclés, hyper baraqués. Les mecs comme moi, à 70 kilos, on n'a plus notre place dans le rugby moderne. On n'a plus rien à y faire. Alors qu'à l'époque, il y en avait un troupeau de types qui faisaient 70 kilos. Maintenant, c'est un rugby qui est venu très physique, hein, qui se joue beaucoup au ras du paquet, où on joue moins derrière, on envoie moins de jeux, on fait moins de spectacles. Le truc, c'est maintenant, dans une équipe, d'avoir un bon buteur, de provoquer l'adversaire, de faire le rouleau compresseur pour le faire reculer doucement, attendre que l'arbitre, il fait bien son boulot. Il y en a un qui est hors-jeu, automatiquement, quand on recule, quand on est dominé, on se retrouve en position de hors-jeu. Et pénalité, et le buteur, il enquille 3 points. On repart dans son camp et on recherche à faire le même regroupement. Alors tout ça, c'est vrai, c'est efficace, mais à côté de ça, quand vous le regardez, vous restez sur votre fin en vous disant, si j'étais allé faire du vélo.
Moralité, vive le rugby de village peut-être alors, non?
Oui, le rugby de village, bien que le rugby de village, attention, hein, au niveau du spectacle, il commence un petit peu automatiquement, on fait comme les grands. Les coachs de petits clubs, certains sont passés par des grands clubs, et on commence aussi à faire un petit peu ce rugby, un petit peu en force, passer en force. On a besoin plus d'éléphants que de gazelles maintenant, hein, pour jouer au rugby. Hein. Même le rugby de village, s'il a encore regardé une certaine authenticité, une certaine identité, au niveau un petit peu de la troisième mi-temps, au niveau de l'ambiance, au niveau du jeu, il a beaucoup perdu.
Alain André, l'un des deux présidents de l'USV, c'est un drôle d'endroit pour parler de rugby. On est dans le cimetière, l'un des cimetières du Lardin Saint-Lazare. Vous nous avez parlé d'une tradition qui est extrêmement touchante. Je voudrais que vous...
Mais oui, bien souvent, lorsqu'un de nos anciens joueurs disparaît, la tradition veut qu'on remette un maillot à l'épouse ou aux enfants de celui-ci pour qu'ils gardent à jamais cet emblème qui nous tient tant à cœur, le maillot.
Autre symbole, on est aussi au pied de l'église. On lit, on parle souvent du rugby de clocher. Le Lardin Saint-Lazare, c'est le club emblématique de ce qu'est encore le rugby de clocher en France aujourd'hui?
Complètement. On est dedans. On est dedans géographiquement parce qu'on est un petit village. Donc forcément, quand on dit clocher, on parle de rural et de petit village. On est dedans parce qu'on est un petit club avec de petits moyens. Et donc encore clocher avec une connaissance de chacun, c'est-à-dire que c'est très familial. Les parents, les grands-parents ont joué dans ce club. Les jeunes d'aujourd'hui ont toujours des repères familiaux par rapport à ça.
On est à une époque, et on l'a récemment montré dans notre magazine, où les écoles ferment, où les commerces ferment, y compris ici au Lardin. On est sur une commune qui fait grosso modo 2000 habitants. Est-ce que le rugby, c'est vraiment la structure qui maintient l'existence de ce regroupement de hameaux qu'on appelle aujourd'hui le Lardin Saint-Lazare?
Alors, on n'est pas seul, il y a aussi d'autres sports. Il y a il y a le basket, il y a d'autres sports. Mais le rugby au Lardin, c'est le rendez-vous du dimanche. Bien souvent, dans les tribunes, il y a presque plus de monde dans le stade que dans les rues. C'est aussi une façon de se retrouver avant le match, pendant le match et après. Et puis il y a les entraînements et puis il y a les enfants. Et tout ça fait que la fréquentation autour d'un club comme nous, on l'évalue à 500 personnes, à peu près.
Je rappelle le premier lot, le 2012, troisième lot, le 1818.
Alors 14, 15, 20, 30 et 50. Merci monsieur.
Allez.
Bonne journée. Bonjour monsieur Claude, bonjour monsieur Serge. Oui, pour les... Non, pour les jeunes, moins de 17 ans, vous ne payez pas.
Pour les anciens de l'USU.
Ah non, c'est encore plus cher.
Vous allez battre le record d'entrée aujourd'hui, non?
J'espère.
Avec ce beau temps.
7.
Mesdames, messieurs et supporters, bonjour et bienvenue au Parc municipal du Lorrain Saint-Lazare.
Voilà.
L'Union Sport qui est vétérienne et ses dirigeants sont heureux d'accueillir les équipes de Montignac.
Le budget du club du Lardin Saint-Lazare, 250 000 euros pour l'année. La municipalité y contribue pour un tiers, mais même avec une rallonge du département, cela ne suffit pas pour faire vivre ce club de près de 250 licenciés. À l'entrée du stade municipal, deux grands panneaux affichent le nom des parrains du club, des hôteliers, des artisans et des commerçants locaux.
Moi, je suis Denis Jeannot, le patron de l'Intermarché de Montignac.
Vous êtes l'un des sponsors qui permettent à ce club de vivre. Pourquoi avoir choisi de parrainer le club de l'US Vézérienne? Entre autres, parce que ça n'est pas le seul.
C'est de longue date, hein, mais moi j'ai mes enfants qui sont passés par là déjà aussi. Donc j'ai un de mes enfants qui a joué avec l'entente Montignac-Le Lardin. Donc moi je parraine les deux clubs. Plus Montignac parce que je suis montignacois. Et le Lardin, parce que bah, je connais les dirigeants, Alain André, Pato. Donc moi, Pato, c'est lui qui a entraîné mon fils. Donc je connais ses familles, quoi. Ses familles. Pour moi, c'est obligatoire, en tant que chef d'entreprise, de participer à la vie locale.
Et vous avez l'impression que votre clientèle est sensible à ça?
Oui, je pense. Ouais, parce que ça reste... c'est petit, hein. Ici, c'est pas la ville. C'est la campagne et on se connaît tous à peu près, quoi. Et il y a une histoire, il y a un feeling, il y a... Et puis les clubs, ils vont tourner comment aujourd'hui? Ils ont besoin de ça. Et puis en plus, bon, il y a les équipes premières, mais après, c'est qu'il y a tous les jeunes derrière. C'est ça aussi.
Pour vous, c'est un investissement de quel ordre, par exemple, de participer au parrainage d'un club comme celui de l'USV?
Eux, je leur donne 1500, 2000, ouais. Mais après, pour moi, c'est pas un investissement, c'est aider le club à vivre, à faire jouer nos enfants, voilà.
Appliquez sur les touches.
Et la production.
Chaque fois qu'ils disent oh, ça y est, il y a peine à le faire.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il siffle là? Qu'est-ce qu'il siffle? Qu'est-ce qu'il... C'est un plaquage, qu'est-ce qu'il siffle?
C'est formidable.
Hé, l'arbitre là, faut arrêter là.
Cadeau.
Oh les rouges, allez.
On leur planter un essai à la dernière minute.
Score final pour l'US Vézérienne, 19 à 13.
C'est
Chérif Adjanier, président de l'USP, le coup de finale vient de retentir. Heureux alors?
Ben, content, oui, content, parce que c'était un derby, c'est jamais facile à remporter. Bon, on a alterné du bon et du moins bon, on l'a bien vu, hein, mais c'est normal, c'est le premier match aussi de championnat. Donc on est toujours un peu crispé, mais oui, par nos avants, par la solidarité, on a réussi quand même à les contenir chez eux, à faire des bons contre-rucks pour récupérer les balles. Oui, c'est un grand soulagement, on va dire, aujourd'hui. Un grand soulagement.
Et puis au-delà de ça, une belle journée de rugby, hein. Soleil, deux victoires.
Deux victoires, du soleil, du public. Voilà, maintenant, je crois que tous les ingrédients sont là pour qu'on passe une bonne soirée.
Le bonheur est toujours dans le pré, c'était un reportage de Pascal Dervieux, prise de son Éric Damaggio, mixage Olivier Dupré. Pour commenter ce reportage, un invité s'imposait, les auditeurs de France Inter le connaissent bien puisqu'il a commenté pendant plus de 35 ans le rugby sur notre antenne. Patrick Grivas, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vécu, vous, en tant que journaliste, donc en tant qu'observateur, ce passage à l'ère du professionnalisme. Est-ce que vous partagez les constats qu'on peut entendre dans le reportage d'un jeu devenu à la fois plus rapide, plus physique, mais parfois aussi plus stéréotypé, plus prévisible, parfois même ennuyeux vous partagez ce constat-là?
Ah, tout à fait, à 100%. Effectivement, on a écouté ce reportage et on s'aperçoit immédiatement à l'écoute que tout ce qui a été dit par ces gens qui évoluent autour d'un tout petit club correspond véritablement à la réalité du rugby. Ce sport a évolué de manière assez phénoménale en l'espace de 20 ans. Je crois que c'est le sport collectif qui a le plus évolué par rapport à d'autres sports comme bien évidemment le football, mais également le basket, le volley, le hand. Le rugby s'est véritablement métamorphosé en l'espace de 20 ans. Donc, toutes les remarques, toutes les critiques, toutes les réserves, mais également tout l'enthousiasme que nous avons entendu à la faveur de ce reportage correspondent véritablement à la réalité.
Ce qui vous frappe le plus, vous, c'est quoi? C'est la transformation physique des joueurs? Ils ont tous le même gabarit maintenant. Est-ce qu'il y a encore une place pour les petits dans ce sport?
Il y a une place pour les petits, je parle bien évidemment du rugby professionnel, dans des postes très très spécifiques, et encore, je pense par exemple au poste de demi de mêlée, parce que traditionnellement le poste de demi de mêlée, c'est un poste de petit gabarit, avec quelqu'un d'extrêmement vif, donc ça peut-être qu'effectivement ça va perdurer encore quelques années, même si par exemple Tyus Bord, qui est le titulaire pour le 15 de France, est un garçon qui aujourd'hui fait 87 kilos et il porte le numéro 9 dans le dos, donc effectivement les choses sont en train d'évoluer, mais par exemple on constate qu'en l'espace de 15 ans, le gabarit moyen d'un joueur de l'élite le poids moyen était de 87 kilos. Aujourd'hui, c'est de 97 kilos. Donc, en l'espace de 15 ans, les joueurs ont pris 10 kilos, notamment les trois quarts. Est-ce que ça va s'arrêter là? On ne sait pas, effectivement, quand on voit Bastaro qui fait 122 kilos. Et il n'est pas le seul, bien évidemment, dans le rugby international, puisque maintenant, pour être un trois quarts, il faut faire pratiquement entre 95 et 110 kilos. C'est la norme.
Est-ce que c'est pas qu'il y ait vraiment un rugby à deux vitesses, que ce soit plus vraiment, est-ce que c'est déjà pas plus vraiment le même sport entre l'élite et les amateurs? On peut pas jouer tout à fait de la même manière quand on n'a pas ces gabarits-là, et quand on n'est pas professionnel, on peut pas avoir, c'est pas possible, l'intensité physique est telle qu'on peut pas avoir ces gabarits-là chez les amateurs.
Bien évidemment, c'est impossible, c'est la raison pour laquelle heureusement qu'il y a un rugby amateur qui perdure et qui se développe, puisque le rugby est devenu quand même une discipline et un sport qui est largement pratiqué en France, et pas uniquement au sud de la Loire, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, mais les amateurs, compte tenu du fait qu'ils s'entraînent deux, trois fois par semaine au maximum et dans des conditions particulièrement difficiles, les amateurs, bien évidemment, ne peuvent pas pratiquer le même rugby. Mais en revanche, ils vont s'en inspirer. Et c'est là où ça devient dangereux également. Si nous avons perdu ce fameux French flair que tout le monde admirait il y a de cela quelques années, qui est maintenant carrément obsolète puisqu'il n'est plus pratiqué. Si on l'a perdu, c'est tout simplement parce que les éducateurs se sont inspirés du rugby professionnel, de ce qui se fait, de ce qui se voit à la télévision, de cette manière de jouer, et donc simultanément, eh bien, l'éducation du rugby et du jeu de passe est devenue non pas caduque, mais est devenue de moins en moins usitée.
Alors, cette évolution, elle s'accompagne aussi peut-être d'inquiétudes pour le physique des joueurs professionnels. Et puis, il y a les rumeurs, les soupçons de dopage dont on parle parfois. Est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes, effectivement, physiquement, pour l'intégrité des joueurs?
Ah là, c'est incontestable. Là aussi, il y a des chiffres qui font état de 22% d'augmentation de blessures en l'espace de quelques années, avec en premier lieu les commotions cérébrales. C'est ce type de blessure
un peu comme chez les boxeurs,
généralisé un peu comme chez les boxeurs, et on connaît bien évidemment les dégâts que cela peut faire quelques années plus tard, même s'il y a un accompagnement médical qui est beaucoup plus sophistiqué qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, vous vous souvenez, on se prenait une commotion cérébrale, il y avait un vague soigneur qui apportait une éponge et puis le gars repartait. Maintenant c'est terminé, il y a bien évidemment des questions qui sont posées au joueur qui est KO, quelle année nous sommes, quel est le président de la République, ainsi de suite, pour quelle équipe tu gagnes, ou tu gagnes ou tu perds d'ailleurs, tu joues. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a un accompagnement médical avec des repos et des analyses. Mais effectivement, on peut redouter, et on redoute d'ores et déjà énormément l'accroissement des blessures, les commotions cérébrales et également les genoux qui sont les plus touchés.
Alors, est-ce que ces évolutions ont eu un impact sur ce dont le rugby a toujours été très fier et a toujours mis en avant, c'est-à-dire les valeurs, c'est-à-dire un certain nombre de choses comme ça, et puis les fameuses troisièmes mi-temps aussi qu'on entend à la fin dans le reportage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué aussi avec le professionnalisme?
D'abord une belle phrase quand même, puisque vous parliez de troisième mi-temps, c'est celle qui consistait à dire qu'à l'occasion des troisièmes mi-temps, il y avait de la cuite dans les idées. Donc voilà, c'est pas de moi, c'est de Blondin. Oui, est-ce que les valeurs du rugby ont changé? Oui, incontestablement, elles ont changé. Tout a changé dans ce sport, je vous l'ai dit. C'est une véritable révolution. Donc, c'est plus du tout les mêmes valeurs. D'abord, il est impossible aujourd'hui pour un professionnel de faire la fête. Or, la troisième mi-temps, ça faisait partie véritablement de l'institution. Il y avait deux mi-temps où, de temps en temps, effectivement, on s'expliquait vaillamment, gaillardement. Et puis, en troisième mi-temps, il convenait bien évidemment que les deux équipes se retrouvent autour de plusieurs verres. Il y avait également, au moment où le rugby n'était pas professionnel, il y avait le principe du banc. C'est-à-dire que l'équipe de France, lorsqu'elle recevait à Paris l'équipe d'Angleterre, et Dieu sait qu'il y avait des antagonismes et des rivalités, il y avait un banquet où les deux équipes se réunissaient, buvaient ensemble et faisaient la fête. C'est dorénavant pratiquement plus possible. Pourquoi ? Parce que dès qu'un joueur termine un match, je parle d'un joueur professionnel, c'est tout juste si, comme les footballeurs, il n'y a pas un avion qui l'attend pour le ramener immédiatement dans la ville où il évolue et où il va bien évidemment jouer la semaine d'après. Donc ça a quand même considérablement changé les valeurs. En revanche, il y a toujours quelque chose qui perdure et qui se prolongera, selon moi, éternellement, c'est qu'en rugby, vous ne pouvez pas être individualiste. Si vous voulez gagner, il faut jouer collectif. Et même si vous voulez briller individuellement, il faut que les autres vous aident à briller. Et donc, cette réciprocité, elle reste. Il y a une autre phrase de Pierre Albanéjo qui disait « Ce jeu qui interdit le jeu ». C'est beau.
Merci Patrick, et puis on vous souhaite bon vent, voilà. Puisque on sait que vous venez tout juste de quitter France Inter. Vous continuez à vous intéresser au rugby, bien sûr. Vous allez regarder le match ce soir, évidemment.
Bien évidemment.
Voilà, donc France-Irlande, on vous le rappelle, cet après-midi, pas ce soir. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Juliette Acius et Zora Bensmaili. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bon dimanche et à la semaine prochaine.